Jeff Caron. Jeff Caron.
Jean-François Caron, mes hommages.
Salut, ça va?
Très bien. On a un beau duo ce matin. On a un beau duo avec Mélanie Joly et Bruno Marchand. Mais commençons, les femmes d'abord, par Madame.
Exactement. Écoute, le tweet de la semaine dernière, ça appartient à Mélanie. Le 6 février dernier, elle a écrit, et je cite, « Malgré les perturbations mondiales, le Canada est à la tête du secteur automobile depuis 158 ans. » C'est bon, par où commencer? D'abord, tu sais, quand on parle d'auto, on parle de moteur à essence, pas de charrette à vapeur. Donc, le premier brevet déposé pour le moteur à essence, ça l'a été en 1886 par Carl Benz. Donc, il y a 140 ans, pas 158 ans. Puis, on s'entend aussi que Carl Benz, c'était pas un gars qui était natif de Chicoutimi, là. Puis, l'autre chose, c'est être à la tête du secteur automobile, ça voudrait dire être un pays qui a déjà eu des compagnies entièrement canadiennes qui ont toujours été à l'avant-plan de l'évolution technologique, tu sais, comme Toyota, Ford, BMW, Mercedes, Peugeot, etc. Mais tu sais, la plus vieille compagnie automobile canadienne, ça s'appelait la Russell Motor Car Company, qui a opéré de 1904 jusqu'à sa faillite en 1916. Depuis ce temps-là, là, le Canada, ça assemble des chars pour les autres, pour des compagnies qui opèrent dans d'autres pays. Donc, tu sais, être l'usine des autres, là, c'est pas vraiment ça, être un leader mondial. Mais tu sais, il y a personne qui est surpris que des absurdités pareilles sortent de la bouche de Mélanie, qui en est évidemment pas à sa première bourde. Parce que Mélanie, c'est l'incarnation du grand mal canadien qui ronge le pays depuis des décennies. C'est un pays où la diversité, à tout prix, a complètement détruit le principe fondamental de la méritocratie. Parce que Mélanie, là, n'est pas ministre là, à cause de sa grande culture générale. On s'entend qu'il est là parce qu'il représente une catégorie de personnes, puis aussi parce qu'il représente une région qui se doit d'être représentée autour du Conseil des ministres. Mais dans un monde là, où la méritocratie serait la norme et non celui du souci de la représentation, Mélanie, là, ça serait une simple backbencher au Parlement. Puis inévitablement, dans un monde comme ça, vous vous retrouvez avec des gens qui sont aux commandes puis qui ont été choisis sur des critères de genre, de couleur de peau ou de préférence sexuelle, puis pas à cause de leur qualité. Puis ça, le problème, c'est une dynamique comme ça, c'est que ça crée une dynamique malsaine, justement, au sein des organisations gouvernementales, parce que si les gens qui y travaillent doivent leur poste au fait qu'ils appartiennent à un groupe diversitaire, bien, ils vont inévitablement élever la diversité en norme absolue. Puis c'est pour ça qu'ils vont créer des mois entiers qui sont dédiés à ces groupes-là. Puis, tu sais, gare à ceux qui vont refuser de se prêter à ce jeu-là. Si tu refuses de participer au mois LGBT, ben c'est parce que tu es un homophobe. Puis ces gens-là, ben ils sont catalogués comme des ennemis, puis ils vont être privés de promotion. Donc, qu'est-ce qui va en découler? C'est exactement la même situation qui a été décrite par Carney dans son discours de Davos. Il rappelait, là, tu sais, comme à l'époque soviétique, dit les commerçants mettaient dans leur vitrine le matin des posters qui disaient « Gloire au parti », puis « La victoire appartient aux travailleurs », alors que ces gens-là, là, ils croyaient absolument pas à ces sottises-là. Mais ils le faisaient pour qu'on leur sacre la paix, puis qu'ils ne soient pas suspectés d'être des ennemis du communisme. Donc, l'hypocrisie dans un système comme celui-là était élevée en hypocrisie systémique. Puis c'est la même chose dans les ministères, surtout à Ottawa. Les gens, ils vont embarquer dans ce cirque-là de manière hypocrite afin qu'on leur sacre la paix, puis que ça ne brise pas leur carrière. Fait que Carney, il continue à être le chef d'orchestre de cette grande mascarade-là en laissant des personnes comme Mélanie Joly au cabinet.
Est-ce que... Mais moi, je la trouvais très contente aussi. Quand Trudeau est parti, elle est devenue soudainement très, très pro-Carney. Puis regarde, il est donc bien extraordinaire, lui. Puis regarde, on est sauvés. On sentait qu'elle était soudainement revigorée par le fait qu'elle sentait qu'elle était pour garder sa job.
Ben en fait, au départ, elle pensait se lancer à la course à la chefferie. Elle l'a envisagé sérieusement. Puis elle a réalisé qu'elle avait évidemment aucune chance. Puis elle a décidé d'appuyer Carney parce que sa plus grande ennemie dans le Conseil des ministres, là, c'était Chrystia Freeland. Ces deux-là, ils ne pouvaient pas se sentir. Quand Mélanie Joly était ministre des Affaires étrangères, puis Chrystia Freeland était ministre des Transports, je pense, ben c'est elle qui court-circuitait Mélanie Joly sur les questions ukrainiennes en la bypassant puis en allant directement au bureau de Trudeau. Fait qu'eux autres, ces deux-là, fallait même pas qu'elles soient dans la même pièce, là. Elles se détestaient. Fait qu'elle a fait le choix Carney, ben, en se disant, ben, si Freeland l'emporte, je me fais expulser du Conseil des ministres. Donc, je vais évidemment appuyer Carney, qui est celui qui a le plus de chances de remporter la course. Puis si là, je me montre, là, un bon soldat, ben, c'est sûr qu'il va me récompenser. Puis il va être obligé de me récompenser parce que la région de Montréal doit être représentée. Puis il doit y avoir des femmes au Conseil des ministres. Et crampée, voilà. Elle sait qu'elle va rester au Conseil des ministres.
Franco-femme Montréal.
Si elle s'appelait le Jerry Smith, puis c'est un homme blanc de Toronto, où t'as 40 députés libéraux là,
c'est une
de la plante région.
Verte.
Ben oui, évidemment. T'sais, mais là, juste parce qu'elle représente une catégorie de personnes, puis une région qui doit être représentée au cabinet. Donc, la diversité à tout prix. Puis la conséquence de ça, ben, c'est la méritocratie. Puis ce qu'on voit, ben, la conséquence de ça, ben, c'est ces tweets absolument ridicules sur les réseaux sociaux, hein. Et c'est pas son premier. Vous vous souviendrez, elle avait aussi dit, je pense que c'était à tout le monde en parle, que la guerre en Ukraine, ça représentait le premier conflit en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. T'es comme, ouais.
Il y a peut-être la Bosnie avant aussi, là.
Ben c'est ça, tu sais. Mais tu sais, pas de culture générale, tu sais. Bref, ça veut dire beaucoup de choses, ça.
Dans le cas de Marchand, on a affaire à qui?
Ah, Marchand, ben oui, il a fait ça. Sa petite crisette hein, la semaine passée, puis c'est pas rien de nouveau là-dedans, parce que moi, je voudrais rappeler quelque chose à ce pseudo-roi philosophe, une chose qui est centrale dans l'administration publique, qu'il a carrément oublié. Un gouvernement, quel qu'il soit, ça doit gouverner uniquement en fonction de l'intérêt général, puis prendre des décisions en fonction de normes qui sont universalisables. Donc, la sécurité, la santé publique, la liberté de mouvement, le droit à la propriété, etc. Puis quand il y a une de ces normes-là qui doit être limitée, ben il faut que les gens qui gouvernent soient en mesure de démontrer que ça repose sur un motif raisonnable et que ça repose aussi sur des faits. Donc, c'est ça qui va caractériser un bon gouvernement. Puis l'inverse d'un bon gouvernement, c'est quelqu'un qui cherche à utiliser les leviers gouvernementaux pour imposer au reste de la société sa conception particulière de la vie bonne. Or, c'est quoi la conception marchandienne de la vie bonne? C'est faire du vélo, boire des shakes, manger grano, puis être obsédé par tout ce qui peut causer un dommage à la santé humaine. Mais bref, là, sa vision à lui, c'est la vie saine poussée à un niveau extrême. Fait que ça veut dire que toutes ces décisions sont subordonnées au seul impératif moral qui vaut quelque chose à ses yeux, c'est-à-dire la santé. Donc, il voit tout dans ce qui l'entoure des menaces potentielles à la santé, puis il justifie toutes ses décisions autour d'elle.
Une bonne dose de narcissisme aussi dans le shake, là. As-tu vu mes souliers? Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé.
C'est ça. Ben, tu sais, ça, c'est ses lubies sur les pistes cyclables partout, sa guerre larvée à l'auto, puis son obsession maladive sur son petit train qui va vous coûter un bras, deux jambes, puis vos deux reins. Fait que Marchand, là, il vit dans l'hubris typique de l'obsessionnel compulsif qui est stické sur une seule préoccupation personnelle à qui on a donné les clés du char. Il refuse de penser ses politiques publiques en termes d'équilibre avec les autres normes. Parce que, tu sais, quand vous y pensez, ne serait-ce que deux minutes, tout ce qu'il raconte, ça fait aucun sens. T'sais. Un tramway pour améliorer la mobilité. Le gars va bloquer René Lévesque d'est en ouest pendant une décennie, puis il suffit là, de regarder en après-midi les autobus du RTC pour se rendre compte qu'ils sont vides à l'extérieur des heures de pointe. Un tramway puis l'interdiction des feux de forêt pour améliorer la qualité de l'air, c'est n'importe quoi. La qualité de l'air de Québec est exceptionnelle, puis les données le montrent concrètement. Au cours des 5 dernières années, là, les seules journées où la qualité de l'air s'est détériorée en deçà des niveaux acceptables, ça a été pendant les mois de juin puis juillet, pendant les grands feux de forêt. Fait ça, un tramway de 15 milliards puis des marchands macoutes qui se promènent avec des détecteurs de chaleur dans les rues pour pogner ceux qui se réchauffent, là, ça va rien changer à la situation. Tu sais, c'est des dépenses puis des interventions qui sont déraisonnables, qui n'ont aucune raison d'être. Puis ça a juste une raison d'être pour un obsessionnel compulsif qui pense juste au basic.
Il joue au petit président aussi. Hein. Il joue au petit président. Regarde, moi, je m'occupe de ceci, je m'occupe de cela. Il se donne des airs de président d'un petit pays. Un petit pays qu'on appelle Québec, là.
Bon, oui, tu sais, écoute, si ça...
Une ville qui va bien en passant, rappelons-lui, là... Parce qu'il se met dans la photo du Globe and Mail en fin de semaine. Peut-être remercier la CAQ qui a embauché une trolley de fonctionnaires qui viennent faire virer les restaurants qui marchent. Là. C'est ça, pareil. Ah, ça va bien, c'est de ma faute, c'est grâce à moi, merci. Je veux dire, ça reste une ville de fonctionnaires avec la CAQ et la Ville de Québec qui ont embauché, comme c'est pas permis, des fonctionnaires. Là. Faut le dire, ça aussi.
Oui, oui. Mais c'est ça, mais garde, si il s'appelait Chantal puis il avait 17 ans, là, il posterait là, 20 photos par jour sur son Instagram, là, des selfies puis des photos de ce qu'il a préparé à manger. Là.
Pré-yoga et post-yoga.
Exactement. Mais tu sais, pour revenir à la qualité de l'air, là, Québec, c'est pas Pékin puis c'est pas New Delhi. Où là, tu sais, clairement, là, la mauvaise qualité de l'air, là, oui, ça nécessite des mesures agressives parce que la qualité de l'air dans ces villes-là pose réellement un danger pour la santé publique. Oui. C'est pas le cas à Québec, là. Fait que, tu sais, Marchand, là, c'est l'institutionnalisation d'une vision étroite et limitée de l'autorité politique. C'est la gouvernance malsaine de celui qui cherche à transformer sa ville en fonction de ce qu'il souhaite être bon pour lui et pour lui seul. En réalité, le gars, là, il n'y a aucun égard pour l'intérêt général, là.
Mais il a été élu. La moitié du monde sont restés. C'est ça, il a profité quand même de l'apathie générale. La moitié des gens ne trouvaient pas le moyen de lever leur gros cul du divan. Donc, la moitié des gens ne sont pas allés voter. Et il y a une infime partie de ceux qui sont allés voter qui ont voté pour lui. Parce que l'opposition était divisée. Fait que résultat, il gère en majoritaire. Ce qu'il est en majoritaire dans les conseils. Oh, oui. Au conseil, il est majoritaire. Il fait ce qu'il veut.
Non, évidemment, il a remporté l'élection, mais les personnes qui sont restées assises là, sur leur cul, là, dans 2-3 ans, quand ils vont se rendre compte qu'ils vont être obligés de faire des détours impossibles, qu'ils vont être pognés dans le trafic sur Charest, parce que René Lévesque et Grande Allée vont être fermés ou bloqués, là, ils vont commencer à réaliser que c'est pas le fun. Mais ça, c'est ça, le Québec. Les gens, vrai, les gens réagissent juste quand
ils sont touchés personnellement. Oui.
Ben, c'est ça, le manque de perspective. Là.
Comme la pandémie.
C'est ça.
Hein, mon gars, t'es en dépression parce qu'ils ont coupé l'école? Ah, mais moi, je trouvais ça le fun avant un couvre-feu, mais là, mon gars commence à dépresser. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus bon. Exactement.
Fait qu'il a su profiter de ça, évidemment.
Eh oui, c'est sûr. Hey, Jean-François, ça a été un plaisir. Passe une belle semaine dans ta belle ville de Yerevan où on voit des photos magnifiques des montagnes.
Super
Comment l'air pur? L'air est pur?
Oui, non, ben, globalement, c'est la ville est dans une cuvette, donc quand ils ne vendent pas, inévitablement,
ça prend les règlements.
Il y a un peu de sport. Mais écoute, on a des bus électriques puis on a un métro, fait que j'imagine que ça améliore la qualité de l'air. Là. Je vais peut-être vivre quelques années de plus à cause de ça.
Salut, Ben.